pas de problème à
priori. La réponse
elle change sur les mots.
Bonjour à tous, c'est un mardi à la Petite Librairie, votre rendez-vous hebdomadaire avec les livres que la Petite Librairie a aimés. Cette semaine, à nouveau, nous vous proposons quelques chroniques des livres qui nous ont plu, et ce, pendant environ une demi-heure. Au programme, nous vous parlerons de Casa Balboa, chronique d'un désordre ordinaire de Mario Rocchi aux éditions La Dernière Goutte, de L'ombre de ce que nous avons été de Luis Sepúlveda aux éditions Métayer, de Maquis d'Alphonse Cervera aux éditions La Fosse aux Ours, et de Warlock de Oakley Hall aux éditions Le Passage du Nord-Ouest. Et je passe tout de suite la parole à Cécile.
Moi, je vais vous parler de Casa Balboa de Mario Rocchi, donc aux éditions de La Dernière Goutte. Ça se passe dans un petit village d'Italie, en Toscane, à Luc. Et en fait, on suit le journaliste qui, on ne sait pas son prénom, mais il s'appelle, son nom de famille, c'est Balboa, qui est un mari infidèle, un père de trois enfants insupportables, qui s'appellent Manuel, Maurizio et Steffi. Et en fait, on débarque comme ça dans la vie de la famille Balboa pendant 2 années. Tout le monde en prend pour son grade, donc avec le narrateur Balboa, qui est journaliste, donc sa femme, Sofia, qui est jalouse et colérique, où on assiste à toutes leurs disputes quotidiennes, ses enfants, dont il dit que ce sont des imbéciles qui ne comprennent rien aux valeurs qu'il a voulu leur inculquer pendant tout le temps qu'ils ont grandi, et qui ne font rien à l'école ou à l'université, mais aussi ses collègues journalistes, le pape, les bigots, Berlusconi, toute l'Italie en prend pour son grade. Monsieur Balboa a la cinquantaine bien tassée, c'est un obsédé sexuel, un gauchiste un peu désillusionné. Il trompe sa femme avec Vanessa, qui est irrésistible, c'est sa voisine du dessous. Et en fait, on peut presque penser que c'est un fantasme, puisqu'elle est plus jeune que lui, elle est vraiment très belle, elle est experte sexuellement. Donc on se demande si c'est pas plutôt dans ses rêves que dans la réalité qu'il arrive à tromper sa femme. Donc il est déçu par ses enfants qui désertent la maison et les laissent, lui et sa femme, en face à face. Et en fait, ils n'ont plus grand-chose à se dire après 30 ans de vie commune. Sa fille, Steffi, commence à aller à la messe alors que ses parents ont toujours prôné la laïcité ou l'athéisme. Donc il est complètement désillusionné, il se met dans des colères noires. Maurizio, qui est très jeune et qui a des boucles d'oreilles de drogué selon son père, met sa petite amie enceinte et du coup il veut se marier dans l'Italie puritaine, pareil, colère noire. Et Manuel, le petit dernier qui est l'accident, hein, il nous explique très bien qu'il n'avait pas du tout été désiré cet enfant. Et donc il sèche les cours, enfin bon, voilà, donc il nous donne l'impression que tous lui en font voir de toutes les couleurs dans sa famille et se liguent presque contre lui pour lui faire la vie infernale. Alors il y a juste un personnage qui sauve un peu tout ce justement désordre ordinaire, le sous-titre du livre, c'est son chien, Otto. Enfin, on suit toutes leurs balades qui sont interminables en ville, c'est des petits moments qui permettent à Balboa de se calmer, de souffler un peu, d'avoir des petits moments de liberté. Et donc voilà, le narrateur arrive à se calmer grâce à l'affection que lui offre son chien superbe qui est Otto, et qui est autant obsédé sexuel que son maître, il faut croire. Et donc il arrive à draguer grâce à son chien d'ailleurs, puisqu'il monte sur tout ce qui bouge. Et il explique aux femmes qu'il est jaloux un peu de son chien. Et c'est comme ça qu'il arrive à les mettre dans son lit. C'est étrange parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas d'intrigue. C'est juste on entre comme ça dans la famille et on est plongé dans le quotidien de ce père de famille complètement paumé qui arrive sur la fin de la cinquantaine. Et donc, il se pose de plus en plus de questions sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a accompli, sur ce qu'il a surtout raté, ses enfants, par exemple, et son mariage aussi. Et donc, voilà, on est lancé là-dedans et on suit toutes ces disputes, tous ces incidents, ces chagrins, tout ça. Du coup, c'est un livre qui, moi, m'a fait beaucoup penser à Mon chien stupide de Fante, puisqu'on a une relation avec Otto qui est presque salvatrice et qui est assez jolie, en fait, la relation de Balboa avec son chien. Donc voilà, c'est une lecture très agréable. Ça s'appelle Casa Balboa, chronique d'un désordre ordinaire de Mario Rocchi et c'est aux éditions de La Dernière Goutte. Et je passe tout de suite la parole à Myriam.
Alors moi j'enchaîne avec le roman d'Alphonse Cervera qui s'appelle Maquis et qui a été édité là tout récemment à La Fosse aux Ours. Alors Alphonse Cervera c'est un journaliste, un universitaire aussi qui enseigne à l'université de Valence. Il est écrivain, il est poète et il a surtout été
reconnu pour une série de romans qu'il a commencé à publier à partir de 1984, un cycle de 5 romans consacrés à la mémoire des vaincus, dont l'ouvrage « La Maquis » vient juste donc d'être traduit par Georges Tiras. Alors au milieu des années 90, Alphonse Cervera décide donc de consacrer son labeur d'écrivain à la mémoire de la guerre et de l'après-guerre civile espagnole. Ça va être la grosse partie de son travail et ce sur quoi il se consacre pratiquement exclusivement. Ces romans que la critique espagnole tienne vraiment pour les plus achevés du paysage littéraire, consacrés en tout cas à la mémoire des vaincus, conjuguent comme ça leur effet pour reconstituer la vie du village natal de l'écrivain, qui s'appelle Guestalgar, qui est transposé dans l'œuvre sous le nom de Los Yesares, à différents moments de l'époque contemporaine. Alors il faut préciser que c'est une région c'est une région très dure, ça se situe juste aux limites de la province de Valence, et qui a été vraiment la scène d'affrontements particulièrement violents à l'époque du soulèvement franquiste. Au travers des 5 romans qui font partie de cette série, il nous a toujours parlé comme ça de la guerre contre le franquisme et de la Seconde Guerre mondiale. Et là, dans Maquis, l'accent est vraiment mis sur la phase de résistance armée au franquisme entre la guerre civile et le début des années 50. C'est une période comme ça qui est assez bien définie dans le livre. Une époque qui est marquée par justement l'embrigadement plus ou moins de tous les villageois sur les collines alentours pour faire partie de la résistance. Une époque qui est marquée par énormément de tristesse, donc de tous ceux qui restent au village, de tous ceux qui vont être du coup en proie aux violences gouvernementales pour essayer de récupérer ou pour essayer de leur faire dire où se cachent leurs hommes, parce que c'est souvent les hommes et les fils, les grands garçons qui finissent par rejoindre le maquis. Du coup, une période comme ça qui est marquée par toute une forme de culpabilité, par la peur qui rôde tout le temps et dans chaque scène... Il y a la peur qui rôde et par l'oubli aussi, parce que c'est finalement ça que nous dit Alphonse Cervera, c'est que c'est une période de l'histoire qui a été très peu finalement médiatisée et que on nous parle surtout de la Seconde Guerre mondiale évidemment, on nous parle surtout du franquisme, mais du point de vue des vainqueurs finalement de ces deux guerres-là entre guillemets. Alors ce que le récit, et en fait les récits, parce que c'est une accumulation de petits récits comme ça qui prennent tour à tour le point de vue de plusieurs personnages, s'attachent comme ça à faire revivre ceux qu'ont été les aléas et les petits détails d'une vie qui se voulait quand même quotidienne et il fallait bien qu'on continue à vivre jour après jour. Donc c'est les rencontres, c'est les amours, les naissances, les morts qui sont malheureusement assez nombreuses. Toutes les luttes qu'ils ont dû mener, les souffrances qu'ils ont dû endurer, les privations qui en découlent, etc., que vont comme ça affronter les habitants du village dans un contexte de règlement de compte, et vraiment, pour le coup, dans le livre, un règlement de compte historique, c'est-à-dire qu'on se met un peu face à l'histoire, et c'est vraiment ça que nous fait ressentir Alphonse Cervera. Alors moi, j'avais envie de vous lire tout simplement le tout début du roman. « La peur, je connais bien, je suis un maître de la peur. » Le temps a passé sur Los Yesares, abandonnant derrière lui à chaque coin de rue des bribes de vie et de mort, tout comme la crue de 57 laissa dans la boue des champs des squelettes d'arbres et des carcasses noircies de chiens crevés. Je suis né pendant la guerre, et lorsque les gardes civils ont emmené mon père et l'ont roué de coups, j'avais 5 ans et je jouais au bord du canal du Rajolar. Quelque temps après, mon père est parti pour toujours rejoindre le groupe de maquisards que commandait Oros Azules sur la pente du Cerro de los Curas. Nous sommes à présent en 1982, et après tant d'années, c'est comme si nous étions restés les mêmes qu'alors, comme s'il était impossible d'oublier que nous gardons l'échine courbée sous les coups de bâton et les coups de silence. Donc voilà, alors c'est le tout début, on rentre direct dans le vif du sujet, l'écriture est très très belle, et peu importe qu'on change d'ailleurs de point de vue et qu'on change de personnage, il arrive comme ça à nous donner à entendre les voix très personnelles de tous ces gens dont il nous parle, et en même temps, avec toujours cette écriture-là, très, très poétique, très belle et très dure, parce qu'il y a des scènes, effectivement, qui nous arrachent des larmes, parce que c'est absolument terrible, tout ce qui s'est passé là-bas. Donc voilà, alors c'est un livre que moi, je vous conseille fortement, qui est très, très beau à lire, qui est très émouvant, ça s'appelle « Maquis » d'Alphonse Cervera, et c'est édité aux éditions La Fosse aux Ours. Et on va continuer avec un second choix de Cécile.
Moi, je vais vous parler de « L'ombre de ce que nous avons été » de Luis Sepúlveda aux éditions Métellier. D'abord, je vais parler un peu de l'auteur. Donc, il est chilien, est né en 1949, et très tôt, il a milité dans les jeunesses communistes. Donc, en fait, c'était dans les années 70, lorsqu'a eu lieu le coup d'état de Augusto Pinochet contre Allende. Et du coup, Sepúlveda va être emprisonné, alors qu'il est étudiant, dans une prison dédiée aux prisonniers politiques pour trahison à la patrie. Alors il raconte que son avocat a commis d'office pendant son procès, lui a dit qu'il avait eu plutôt de la chance parce qu'il avait échappé à la peine capitale et n'avait été condamné qu'à 28 ans de prison. Voilà, alors qu'il était très jeune, il devait avoir une vingtaine d'années. En 77, donc 2 ans et demi après qu'il se soit fait emprisonner, Amnesty International entre en jeu et arrive à le faire libérer. Donc sa peine de 28 ans de prison est commuée en 8 années d'exil en Suède. Et en fait, pendant toutes ces années, il va voyager beaucoup dans toute l'Amérique du Sud. Et par exemple, au Nicaragua, il va s'engager dans la lutte armée aux côtés des sandinistes. Donc autant vous dire qu'il est vraiment engagé politiquement. Et toute son œuvre est très marquée par cet engagement politique et écologique. Il a été aussi reporter, il a travaillé aux côtés de Greenpeace sur les bateaux. Voilà, et son premier roman, donc c'est Le Vieux qui lisait des romans d'amour, a connu un très grand succès. Par exemple, il a été traduit en 35 langues, il a été adapté au cinéma. Voilà, pour parler un peu de l'auteur. Et moi, je vais vous parler du coup de son dernier roman, L'ombre de ce que nous avons été, qui est sorti au tout début de l'année, là, en janvier 2010, chez Métellier. Je vous ai raconté un peu la vie de Sepúlveda, parce que je pense que ce roman est assez autobiographique. Alors, on est dans un vieil entrepôt d'un quartier populaire de Santiago, et on assiste à la réunion de 3 sexagénaires qui attendent l'arrivée d'un 4e, qui est assez mystérieux, et qu'ils appellent le spécialiste. Alors on apprend que c'est des anciens militants d'extrême gauche qui ont été donc soit condamnés à l'exil après le coup d'état de Pinochet, soit qui sont restés silencieux pendant une 30aine d'années, ou soit emprisonnés et torturés. Donc ils se retrouvent 30-35 ans plus tard, et d'ailleurs les retrouvailles sont assez marrantes puisqu'ils sont tous plus gros, plus vieux, plus chauves. L'auteur nous explique bien cela, et ils se le font d'ailleurs remarquer. Donc on est 35 années plus tard pour participer à une nouvelle action révolutionnaire qui devrait être guidé donc par ce fameux spécialiste. Mais le spécialiste, qui est aussi appelé l'ombre, il n'arrive pas, n'arrive jamais en fait. Donc à plusieurs rues de là, on assiste à une dispute conjugale entre Coco et Concha, qui dans leur appartement se font la guerre en fait, et Concha qui reproche à son mari, et donc lui aussi ancien militant des jeunesses communistes, de ne pas vouloir travailler, de rester sur ses idéaux comme ça, alors il refuse le libéralisme, donc il ne veut pas travailler, il adore le cinéma, en gros il ne fait rien, et du coup Concha se met dans une colère vraiment noire, et de rage elle va balancer son vieux tourne-disque par la fenêtre, qui arrive sur la tête du pauvre homme, donc le spécialiste, qui est tué sur le coup. Voilà. Donc voilà, le spécialiste est mort. Alors l'histoire, c'est comment vont réussir les vieux communistes qui s'appellent Lolo, Cacho et Lucho à faire quand même le dernier coup, soit à ne pas le faire et à rentrer chez eux de déception. Mais en fait, du coup, après quelques heures d'hésitation, Coco va appeler le numéro de téléphone qu'il a trouvé dans la poche du spécialiste, donc sur le cadavre. Il va arriver, lui aussi, à l'entrepôt, et en fait, il retrouve ses anciens camarades avec lesquels il avait quelques, quand même, différents politiques. Donc ça se passe pas forcément très bien, les retrouvailles. Mais donc, on arrive là, et ça, c'est vraiment le début du roman. Et à savoir qu'ils vont se lancer dans l'aventure, parce qu'il se rappelle l'expression favorite du spécialiste « on tente le coup ». Donc voilà, nos 4 anarchistes vont se lancer dans l'aventure et à savoir comment ça va se passer. Mais en fait, le récit est très bien fait. Tour à tour, on suit les personnages, donc soit les 3 sexagénaires qui sont en train de se rappeler le bon vieux temps avec les actions qu'ils ont faites ou pas faites. On a des allers-retours entre le présent et le passé, donc les actions qu'ils ont menées, mais aussi l'histoire complètement délirante dans laquelle ils se lancent aujourd'hui. On voit passer comme ça sous nos yeux le gouvernement Allende, donc la belle époque, mais aussi le coup d'état de Pinochet. Et on a aussi une petite trace de Butch Cassidy et Lucky, du Che Guevara, de Pablo Neruda. Enfin, c'est vraiment très bien écrit et on suit plein de petites choses comme ça. C'est pas du tout linéaire, donc on va avoir des scènes avec les vieux communistes, mais aussi le couple Coco et Concha après leur crime en fait. Et 2 inspecteurs qui sont géniaux. On a un vieux de la vieille qui a connu l'avant-coup d'État et donc qui est rongé un peu par cette lâcheté policière. Il dit d'ailleurs qu'il est le seul qui va avoir une retraite misérable parce qu'il est resté intègre. Et qui est accompagné donc de sa collègue qui est une jeune femme tout juste sortie de l'école et qui, elle, donc est née en 73, donc n'a pas connu le coup d'État. Et qui est trop jeune donc pour avoir connu ces événements-là et qui est pleine d'idéaux. Et voilà, donc cette relation-là est très belle. Et d'ailleurs, Adelita, la jeune inspectrice, va aider notre vieux policier à réussir à mettre de côté toute sa lâcheté pour refaire sortir plein de choses qui se sont passées pendant les événements des années 70. Et voilà, tous ces personnages sont vraiment très beaux, attachants, c'est aussi drôle. Ils sont touchants, ils sont complètement cassés par cette dictature, par l'exil ou le silence qu'ils ont vécu pendant ces 30 ans. Et voilà, alors quand on referme le bouquin, on a une sacrée impression de nostalgie, mais on a aussi beaucoup ri, et je pense que c'est un livre à lire d'une seule traite, ou en tout cas très vite, pour rester justement dans ses impressions. Alors c'est très très beau, ça s'appelle « L'ombre de ce que nous avons été », c'est de Luis Sepúlveda aux éditions Métellier.
Ça a l'air d'être vraiment un roman excellent que, effectivement, la petite librairie vous conseille. Et on remonte un tout petit peu plus haut du coup que l'Amérique du Sud, on va en Amérique du Nord, aux États-Unis, avec un roman qui s'appelle « Warlock » de Oakley Hall. Alors c'est un roman lui aussi assez incroyable, c'est une plongée directe dans l'univers du western, qui nous montre que justement le western ça s'arrête pas au cinéma et que c'est aussi un genre littéraire à part entière que moi je connaissais pas du tout. Alors le livre a donné lieu à un film qui est bien connu, ça s'appelait L'homme au Colt d'or, ça a été interprété par Henry Fonda et Anthony Quinn pour les rôles principaux. Alors c'est l'histoire de la ville de Warlock, proche de la frontière mexicaine. C'est une des nouvelles villes qui est du coup issue de la conquête de l'Ouest et qui s'est formée autour de quelques mines comme ça creusées dans la vallée. Donc les colons ont débarqué là, ils ont décidé d'implanter la ville de Warlock et on est un peu au tout début de cette nouvelle ville-là et de ce qu'elle va être. Alors du coup c'est une ville qui ne fait pas encore partie des États-Unis dans la mesure où l'État, lui, n'est pas encore arrivé jusqu'à là. Il y a bien quelques représentants de l'État, comme par exemple il y a un shérif et il y a un juge, mais qui n'ont aucune autorité. Ce sont vraiment des rôles de figurants qui sont censés représenter un peu ce qu'est la loi, et puis du coup ils ont quand même une certaine forme de liberté d'action, mais finalement les gens ont le droit de faire un peu ce qu'ils veulent, et c'est justement là le gros problème, puisque la ville de Warlock vit sous la terreur d'une bande de bandits sans foi ni loi, dirigé par Abbé McCone, un riche propriétaire terrien et voleur de bétail. Donc, du coup, la ville, comme ça, elle est plongée dans la terreur, et malgré cette terreur-là, il y a certains habitants qui décident de se réunir en comité, alors ce sont les commerçants, en fait, de la ville, et ils vont faire appel, moyennant beaucoup d'argent, à une fine gâchette de l'Ouest, qui est déjà considérée comme un peu un héros du Far West par tous les journaux de l'époque, et qui s'appelle Clay Blaisdell, c'est donc l'homme au pistolet d'or. Alors ça commence de manière assez classique, hein, le décor est planté, on a donc ce groupe de bandits là menaçants, et puis une espèce de figure un peu héroïque avec ses gros pistolets qui est censé arranger toute la situation. Or, justement, le roman est à la fois tout et rien à voir avec le western classique. C'est-à-dire qu'on y trouve un peu tous les poncifs du genre, c'est donc des bandits sanguinaires qui rôdent, la mainmise des grands propriétaires terriens, les duels au soleil, les discussions au saloon entre quatre yeux et entre trois crosses de revolver. Mais on a aussi plusieurs strates comme ça de profondeur qui ne cessent un peu de se chevaucher tout au long du livre, et ce notamment grâce à toute une panoplie de personnages. Alors tour à tour, premier rôle, second rôle, finalement c'est pas très bien défini. On a par exemple le nouveau shérif, qui s'appelle Gannon, qui est un ex-bandit, qui a fait partie de la bande d'Abbé McCone, et qui décide finalement de devenir shérif, donc de choisir le côté de la loi, et qui va se battre contre la bande à McCone, dont fait partie son propre frère. On a aussi Tom Morgan, c'est l'ami fidèle de Clay Blaisdell, l'homme au pistolet d'or, un homme très calculateur, très manipulateur, qui le suit un peu partout, et qui va devenir à Warlock, le propriétaire du saloon. On a des femmes, bien sûr, on en a deux en particulier. Une femme, entre guillemets, sainte, qui s'appelle Jessie, qui s'occupe plus ou moins de l'hôpital de Warlock. Et une femme complètement diabolique, qui s'appelle Kate Dollar, qui est un personnage absolument magnifique. On a le juge, on a les adjoints du shérif, le médecin de Warlock, le propriétaire de la mine, les syndicalistes, parce qu'il y a aussi toute une histoire comme ça de syndicalisme et de combat pour des meilleures conditions de travail dans les mines de Warlock. Alors c'est assez incroyable du coup tous ces personnages parce que on a vraiment le sentiment que Oakley Hall parvient comme ça à leur donner beaucoup de corps, et donc du coup ça fait, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas vraiment ni de second rôle ni de premier rôle, et au fur et à mesure on en sait tellement plus sur chacun qu'on s'aperçoit que finalement personne n'est ni bon ni mauvais, mais que tous sont un peu deux à la fois. Et c'est vraiment de ça dont nous parle le roman, c'est de ce combat-là entre le bien et le mal, mais à l'intérieur, finalement, de tout à chacun. C'est pas juste les gentils contre les méchants. C'est aussi, ça nous parle aussi du combat pour la justice, qui passe, ou non d'ailleurs, par tous les moyens, qu'ils soient bons ou mauvais. Et puis, finalement, la question, c'est pour quelle justice exactement est-ce qu'on a décidé de se battre, et qui est-ce qui décide que ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Le point de départ du roman, en tout cas, c'est que pour traquer les hors-la-loi, le sauveur qui va être placé comme ça du coup au-dessus de la loi va utiliser la loi pour finalement ne faire que tuer
froidement ceux qui sont considérés comme les méchants par les villageois. Et les habitants, du coup, ne vont pas tarder comme ça à se déchirer, donc ceux qui font partie notamment du comité citoyen, et à se diviser comme ça au sujet de cet homme qui se met finalement au-dessus d'eux, au-dessus de tout. La question est de savoir s'il faut vraiment s'en remettre à celui qui finalement va finir par se prendre pour Dieu, comme le disent au fur et à mesure tous ses détracteurs, et a-t-il le droit de recourir comme ça au mal, donc le fait de tuer au nom du bien, soi-disant la justice. Donc voilà, c'est assez particulier. Warlock, du coup, devient vraiment... Donc la ville de Warlock devient la parabole comme ça de la naissance des États-Unis, avec une sorte de ville un peu laboratoire où on assiste à la naissance de la loi, au conflit d'intérêts desquels émergent comme ça les instances de pouvoir. Et c'est vraiment ça dont il est question. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est dans l'ordre de la loi, c'est finalement ce qui convient le mieux à un intérêt général, à l'intérêt des commerçants, et etc. Et ce qui est absolument incroyable, c'est de se rendre compte que c'est de ce constat-là, donc ce constat de lutte de pouvoir, que va naître la forme de démocratie qui est encore en vigueur et aux États-Unis et chez nous aussi, finalement. Alors il faut saluer, je pense, la traduction du roman, qui est faite par David Boratav et qui apparemment a fait un excellent travail, et notamment au niveau du parler cow-boy de tous les personnages. Il a fallu qu'il trouve des mots et apparemment il en a trouvé pas mal dans le parler paysan des campagnes françaises pour essayer de retraduire un peu qu'est-ce que pouvait être l'esprit de cette époque-là. Donc voilà, c'est un roman qui est vraiment passionnant. Alors c'est une plongée dans le western et ça, en même temps beaucoup plus que ça. Ça s'appelle Warlock de Oakley Hall et c'est aux éditions Passage du Nord-Ouest. Et c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain avec de nouveaux coups de cœur. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes les références des livres dont nous vous avons parlé sur notre site internet lapetitelibrairie.fr, site sur lequel vous pouvez également réécouter cette émission ainsi que les 4 émissions précédentes. Et surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. La Petite Librairie est située au 29 Terre, rue de la République, à Brest. Nous sommes ouverts du mardi au samedi, de 14h à 19h30. Cette émission vous a été présentée par Cécile et Myriam. Bonne soirée et surtout, bonne lecture.